franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'invention d'un tamis pour dessaler l'eau de mer, élaboré à base de graphène, un matériau qui a reçu la plus haute distinction en 2010.
The Royal Swedish Academy of Sciences,
l'Académie royale des sciences de Suède a décidé d'attribuer le prix Nobel 2010 de physique aux professeurs André Geim et Konstantin Novoselov de l'Université de Manchester pour leurs expériences révolutionnaires sur un matériau bidimensionnel. Le graphène.
Voilà, prix Nobel donc en octobre 2010 avec ce matériau le plus mince au monde, aussi fin qu'un atome et ultra résistant. Et aujourd'hui, une équipe de scientifiques de l'Université de Manchester vient de mettre au point un tamis à base de graphène pour filtrer l'eau de mer et la transformer en eau potable. Une découverte importante publiée dans la revue Nature Nanotechnology. Et vous êtes avec nous, Philippe Poulin, pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez au centre de recherche Paul Pascal, c'est à Bordeaux. Alors racontez-nous, quelle est cette technologie mise au point exactement par les chercheurs de Manchester ?
Oui, alors ces chercheurs ont en effet réalisé un progrès très intéressant dans l'utilisation du graphène pour faire des membranes qui servent à purifier l'eau, à la filtrer, à enlever le sel. Mmh. Alors le principe est relativement simple, enfin du moins de façon schématique. Donc comme vous l'avez indiqué, le graphène, ce sont des feuillets d'atomes de carbone, des objets bidimensionnels. Dans ce qu'ont réalisé les chercheurs de l'Université de Manchester, ils les ont empilés pour faire une membrane, comme vous pouvez imaginer une pile de feuilles par exemple. Mmh. Et l'eau est amenée à circuler entre ces feuillets et dans un espace qui est très très mince. Donc les molécules d'eau peuvent circuler, mais les ions, eux, qui ont une taille supérieure, ne peuvent pas passer. Et c'est ainsi que l'eau peut être purifiée.
Et c'était pas la première fois qu'on cherchait à utiliser le graphène pour dessaler l'eau de mer, mais pourquoi là, cette membrane est-elle plus efficace que les fois précédentes ?
Oui, en effet, l'idée n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu de nombreuses tentatives, des résultats prometteurs. Mais ces membranes, jusqu'à présent, avaient différentes limitations, de la difficulté de la fabrication, le coût important. Et certaines aussi avaient un défaut important qui est celui de... En fait, elles gonflent en présence d'eau. Et donc, l'espace entre les feuillets s'agrandit, ce qui fait que l'efficacité de filtration devient beaucoup moins importante. Et l'idée qu'ont eu les chercheurs britanniques est tout simplement, et très simple, est d'utiliser une colle qui maintient le feuillet, si vous voulez, de façon... plus rigide et qui l'empêche de gonfler en présence d'eau, et ainsi la membrane peut rester efficace pour la filtration des ions.
Donc ça permet de mieux contrôler la taille des pores.
Exactement, et de la garder cette constante colle, même en présence d'eau. Oui.
Donc c'est vraiment un filtrage à la manière d'une passoire, hein, si on vous comprend bien.
Oui, oui, exactement. C'est bon. Alors après, il y a quelques subtilités parce qu'il faut pour enlever les ions, ils sont recouverts d'eau qui est fixée, de molécules d'eau qui sont fixées, donc il faut que ces molécules si vous voulez, soit retiré pour que les ions puissent passer ou pas. Mais sinon, oui, le principe est tout à fait celui d'une passoire. Oui, c'est exactement ça.
Et pour que l'eau de mer devienne potable, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste d'enlever le sel.
Oui, c'est ça, avoir un bon tamis et puis hop.
Voilà, mais ça, faut voir que les ions sont extrêmement petits. Donc, il faut des pores très très petits pour de l'ordre de quelques angströms. Donc c'est très difficile à réaliser quand même, c'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu, donc il faut une membrane avec des pores de cette taille-là. Il faut pour faire passer l'eau à travers des pores si petits, des pressions très très importantes, donc il faut des pompes très puissantes. C'est quand même si expliqué c'est très simple, c'est quand même à réaliser sur un plan technologique, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, quoi.
Mmh. Philippe Poulin, 14% de la population mondiale pourrait être touchée par une pénurie d'eau d'ici à 2025, hein, d'après l'ONU. Est-ce que cette découverte est vraiment prometteuse? Et puis on en est où?
Alors non, enfin, oui, elle est prometteuse, si vous voulez, sur un plan purement scientifique.
Vous avez dit non d'abord, hein, quand même, hein, on vous a entendu, hein, attention.
Je vais être honnête, il y a des limitations, il y a encore beaucoup d'étapes, on est encore très loin de la validation de l'application. Faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des membranes en polymère, en plastique, entre guillemets, qui existent et qui fonctionnent. Alors qu'aujourd'hui, ces membranes-là ne sont validées qu'à l'échelle de laboratoire et encore dans des conditions qui ne sont pas vraiment représentatives d'une véritable utilisation industrielle. Mmh. Donc on est encore très loin de l'utilisation. Mais Bon, c'est en améliorant ces membranes, justement, qu'on va développer des technologies qui vont consommer moins d'énergie, qui seront plus efficaces. Et donc, c'est une recherche qui est vraiment intéressante et utile.
Bon, il y a une piste, en tout cas, très intéressante. Hein, effectivement, on sent la promesse, mais la complexité technologique encore, hein, qui reste à améliorer. Agnès hein.
Oui, on a vu le nombre de brevets bondir hein, ces dernières années, des brevets impliquant justement le graphène. Quelles sont les propriétés de ce matériau qui le rendent si intéressant ?
Alors, vous l'avez aussi indiqué, c'est un matériau qui, déjà sur un plan mécanique, est très résistant. C'est un des matériaux les plus résistants sur Terre. C'est aussi un matériau qui est conducteur d'électricité. Et d'ailleurs, c'est une des principales raisons pour lesquelles il y a eu un prix Nobel associé à sa découverte. Mm-hmm. C'est un matériau dont l'utilisation était d'abord envisagée dans l'électronique. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont étendues à beaucoup d'autres domaines. Vous voyez, la filtration de l'eau, mais il y en a aussi en médecine, dans les composites pour l'automobile, les transports. Enfin, il y a beaucoup d'utilisations qui sont envisagées pour ce matériau.
Voilà, donc beaucoup de recherches hein, autour de ce matériau dont tout le monde a envie de s'emparer, effectivement. Et puis, on va attendre avant de voir les applications possibles à la suite de cette publication donc, qui paraît pour le filtrage de l'eau de mer. Merci pour vos explications, Philippe Poulain. Vous êtes directeur de recherche et vous travaillez donc au Centre de recherche Paul Pascal de Bordeaux. Merci à vous et bon week-end.
Merci.
Et puis Agnès, à très bientôt.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, une atmosphère a été observée sur une exoplanète semblable à la Terre et elle abrite de l'eau. Le problème, c'est que cette planète est très proche de son étoile. L'eau y est constamment chauffée à plus de 300 degrés. D'après les chercheurs qui ont fait la découverte, ce serait donc un frein à l'apparition de la vie. Située à 39 années-lumière, cette planète est un peu plus massive et un peu plus grande que notre Terre. Elle gravite autour d'une naine rouge. On pourrait donc en apprendre davantage sur les systèmes qui se forment autour de ces étoiles. Si les humains ne sont pas devenus cannibales, c'est que ce régime n'était pas assez calorique. C'est ce que suggère une étude britannique. Selon les chercheurs, un corps d'homme contient presque 126 000 calories, de quoi satisfaire les besoins journaliers de 60 personnes. C'est beaucoup, mais toujours moins qu'un mammouth avec ses 3 600 000 calories. En termes de rentabilité, il était donc plus intéressant de chasser une proie moins dangereuse et plus nutritive. Pour autant, des traces de cannibalisme datant de différentes périodes ont été retrouvées selon cette étude, cela peut s'expliquer par un manque extrême de nourriture ou bien par une façon de consacrer sa victoire sur un ennemi. Et puis l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, vient de recevoir le prix Alan Turing. Il récompense les personnes ayant apporté une contribution majeure dans le domaine de l'informatique. Et c'est bien de ça dont il est question, une distinction qui arrive 30 ans après la création du web. À l'époque, Tim Berners-Lee travaillait au CERN et cherchait un moyen de partager des fichiers entre différents ordinateurs. C'est ainsi que naît le tout premier site web. Tim Berners-Lee s'est aussi illustré par sa prise de position en faveur des logiciels libres et de la neutralité du net. Le prix Alan Turing, nommé d'après le célèbre mathématicien, est l'équivalent du prix Nobel pour le domaine informatique. Et c'est le club dans un instant.